me permets une petite incursion dans cet épisode pour vous parler de mon prochain Weekend Mastermind les 15 et 16 juin prochains. Mon Weekend Mastermind, c'est quoi? C'est un événement unique en petit comité où je travaille avec une vingtaine de personal trainers, de propriétaires de studios, de box sur la croissance de leur business et l'augmentation de leur chiffre d'affaires. Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action en 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site andypoiron.com/programme ou cliquez sur le lien dans la description. Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Thomas Guy. Thomas a démarré de zéro dans le coaching sportif. Il a réussi avec son associé après quelques années à développer un réseau de plus de 80 coachs sportifs dans les clubs de fitness Basic Fit. Thomas nous prouve que le coaching sportif dans les clubs de fitness se développe énormément. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Thomas. Comment créer un business de head trainer? Comment développer un business de coaching dans un club de fitness? Comment devenir plus productif? Comment mieux vendre? Comment fidéliser? Et encore beaucoup d'autres choses. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Thomas Guy.
Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Thomas Guy, l'un des responsables, je crois, d'un réseau de coachs sportifs indépendants. Salut Thomas.
Salut Andy, bonjour à tous.
Est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots?
Donc, je m'appelle Thomas Guy, j'ai 29 ans, moi, bientôt 30 ans là, dans quelques semaines. Je suis bordelais, voilà, et du coup, je suis associé avec mon meilleur ami Christophe. Du coup, on a créé une société qui s'appelle FPT. On est head trainer chez Basic Fit. Voilà, et du coup, on dispose d'un réseau de coachs sportifs indépendants. On est implanté sur 21 clubs Basic Fit et on a un peu plus de 80 coachs.
Excellent, ouais. Excellent. On va revenir un petit peu à la genèse. Comment toi, tu es arrivé dans ce secteur-là, dans le secteur du fitness, dans le secteur du coaching? Ça s'est fait comment pour toi?
Ouais. Alors, pour revenir vraiment au début, je suis tombé un petit peu dans le sport. Je suis issu d'une famille de rugbyman. Mes parents, mon père faisait du rugby, mes oncles faisaient du rugby. Voilà, donc je suis vraiment dans une famille de sportifs. J'étais un petit peu, on va dire, hyperactif à l'école maternelle, etc. Donc, la maîtresse a dit, il faut qu'il se mette dans le sport. Il va falloir, voilà, pour le canaliser un petit peu. Le rugby, j'étais un petit peu trop jeune, du coup. La solution, c'était le judo. Donc, j'ai commencé à faire mes armes un petit peu dans un petit club de judo en Dordogne, du coup, à 1 heure de Bordeaux, dans le Périgord. Et au fur et à mesure, j'ai bien tourné, ça m'a plu, j'ai fait des bons petits résultats. Du coup, après, je suis rentré en sport-études judo. Donc, je suis parti en quatrième de chez mes parents, du collège local, on va dire, pour partir à la ville, à Bordeaux. Et c'est là où commence l'histoire, parce que quand je suis arrivé le premier jour, j'étais assis à côté d'un mec qui s'appelle du coup Christophe Martinita, qui lui, c'est mon associé 15 ans plus tard, qui lui est arrivé du Médoc, et du coup pareil, un petit peu à la campagne, et on s'est retrouvés tous les deux assis à côté en cours et dans la même chambre à l'internat. Donc okay. C'est là où ça a commencé, on va dire, vraiment tout début, donc on avait 13-14 ans. Et ensuite, de fil en aiguille, voilà, j'ai continué le sport-études, je suis passé par le Pôle Espoir, par le Pôle France de judo, du coup, au Krebs de Talence à Bordeaux. Et ce qui, on va dire que mon judo, moi, ce n'était pas forcément la technique, c'était plus la préparation physique, le physique, quoi. C'était vraiment mon point fort. C'était vraiment avec le physique que j'arrivais à sortir, on va dire, mon épingle du jeu. Et de fil en aiguille, je suis rentré dans le fitness comme ça, en fait. Grâce à la préparation physique que je faisais, c'est ça qui me plaisait. Et voilà. Ensuite, quand j'ai eu mon baccalauréat en sport-études, j'ai fait un bac STG. Je suis parti au Pompiers de Paris. Normalement, je voulais faire STAPS, mais mes parents venaient de se séparer. Payer un appartement à Bordeaux, c'était pas forcément évident, faire mes études, etc. Donc, du coup, j'ai eu une opportunité. J'ai passé mon concours pompier de Paris. Je suis parti un peu plus d'un an à Paris, du coup. Et finalement, je suis revenu après sur Bordeaux pour passer mes diplômes de coach.
Dans ta terre natale. Ok, ok. Okay, okay. Et du coup, comment tu t'es lancé, enfin, comment, quel type de formation tu as fait pour te lancer dans le coaching?
Alors, j'ai commencé, j'ai fait deux BPJEPS. J'ai fait un BPJEPS musculation, donc l'ancien AG2F, du coup. Et ensuite, j'ai fait le cours collectif, moi. Okay. Donc, j'ai les deux BP, les cours co et la partie muscu.
Et qu'est-ce que toi, tu recommandes aujourd'hui, du coup, à tes coachs? Est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que tu en as retiré d'avoir les deux mentions, on va dire? Est-ce que c'est un plus pour toi, pour exercer dans le coaching ou pas forcément? Quel est ton recul par rapport à ça?
Alors moi, ça va faire bien, ça va faire 9-10 ans du coup que j'ai fait ma formation. Et c'est vrai qu'à l'époque, faire que du coaching, c'était pas forcément quelque chose de courant. Il n'y avait pas l'opportunité comme nous, c'est une opportunité avec Basic Fit. Ça n'existait pas forcément, c'était pas encore mis en place. Donc c'est vrai que les cours co, mine de rien, alors c'était pas forcément mon truc. Hein. Je te cache pas trop que les cours de Zumba et tout ça, voilà, c'était pas mon fort. Mais je l'ai fait et puis ça m'a permis, de pouvoir me lancer aussi à mon compte. Parce que dès que je suis sorti de formation, j'ai été embauché juste derrière. Je faisais de l'accueil, du plateau musculation et des cours collectifs. Et c'est vrai que si j'avais pas eu cette partie cours collectif, on va dire, j'aurais sûrement pas pu me mettre à mon compte à l'époque. Voilà, ça aurait été plus compliqué. Des postes spécifiques muscu dans les salles traditionnelles à l'époque, c'est navet de moins en moins.
Ok. Et tu as tout de suite basculé sur un modèle d'auto-entreprise ou tu es passé par la case salarié?
Alors, c'était un petit peu à tort, mais effectivement, j'ai eu mon diplôme le 30 juin, alors je ne sais plus de quelle année. Le 30 juin, le 1er juillet, le président de l'organisme de formation où j'étais à l'école, avait une salle de sport. Du coup, vu que ça se passait bien en cours, etc., pour moi, il m'avait repéré. Et du coup, le 1er juillet, le lendemain, j'embauchais dans sa salle en tant qu'indépendant, en tant qu'auto-entrepreneur. Et du coup, il me permettait, le deal, c'était aussi, tu fais les cours co, tu fais la partie muscu, etc., tu nous factures tes heures à la fin du mois. Voilà, peut-être un petit peu du salariat déguisé maintenant. Et en contrepartie, je pouvais exercer directement pour le coaching dans la salle et développer le coaching. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait, au fur et à mesure.
Ok, donc tu as fait tes premières armes directement dans ce premier club. Et comment ça s'est passé du coup?
Plutôt bien. L'avantage aussi d'être indépendant, c'est que du coup, j'ai continué à me former. Après mon BP, du coup, j'ai fait un DU en préparation physique. Mmh. Le DU de Liévin à côté de Lille. En même temps, je travaillais du coup, j'étais en alternance en stage à l'UBB, au club de rugby en top 14. Donc là, c'est vrai que j'ai pu vraiment avoir des super structures avec du super matériel et tout. C'est vrai qu'en tome 14, ils ont quand même des gros moyens. Donc, j'ai vraiment touché du matériel et puis travailler avec des préparateurs physiques vraiment à la pointe. Okay. Donc, Et en même temps, après, j'ai fait un BTS diététique aussi par correspondance. Donc, du coup, j'étais déjà à mon compte, je travaillais déjà. Mais c'est vrai que j'ai continué à me former avec des formations quand même assez conséquentes là-dessus. Et au fur et à mesure, ça s'est développé et j'ai eu de plus en plus d'heures de coaching.
Ok. Et du coup, comment tu es amené à découvrir Basic Fit? Ça se passe comment?
Alors, j'ai été ensuite démarché. J'ai fait, je crois, 2 ans, 3 ans dans cette première salle. Ensuite, j'ai été démarché par une autre salle qui faisait du small group training, du coaching. Et du coup, ça m'a permis, si tu veux, d'arrêter les cours collectifs. Parce que moi, c'était un souhait que j'avais, vraiment me consacrer sur la partie coaching et small group. Du coup, je suis parti travailler dans cette salle pendant 2 ans. J'ai commencé en 35 heures. À côté, je payais un petit loyer dans cette salle pour développer ma partie coaching. Mmh. Et au fur et à mesure, la bascule s'est faite. Si tu veux, je suis arrivé en coaching, j'avais des clients de partout. Du coup, j'ai demandé à l'époque à mon patron de me baisser mes heures. Il m'a baissé à 20 heures. J'ai encore augmenté mes heures de coaching. Il m'a baissé, je crois que c'était à 12 heures à la fin. Et après, j'ai dit, maintenant, il faut que je prenne mon envol. Et j'ai eu une opportunité avec Basic Fit. C'est vraiment par hasard parce que Christophe, dont je te parlais tout à l'heure, mon associé, mon meilleur ami, lui, après le sport études, il a pris un cursus professeur de judo. Il voyait que ça tournait bien, etc. pour moi, le coaching. Du coup, il a passé son BPJEPS. Il a fait son stage dans cette fameuse salle, donc j'étais son tuteur. Donc, c'était assez, euh, assez rigolo. J'étais tuteur de mon meilleur pote. Je lui mettais des bonnes notes, etc. Ça se passait bien. Et lui, voilà, c'est le judo qui nous a un peu servi parce que en discutant, etc., avec un autre professeur de judo, avec qui il faisait des remplacements, mais voilà, cette fameuse personne, c'est Benoît Fouilleul, pour ne pas le citer. Je ne sais pas si tu le connais.
Je l'ai eu au podcast. Du coup, on a parlé de toi et tout parce que j'ai fait le rapprochement parce que lui aussi faisait du judo, je crois.
Exactement. Donc il y a pas mal de judo nous a beaucoup servi. C'est vrai que ça a été voilà. Et du coup, voilà, Benoît à l'époque, était responsable d'un club chez Basic Fit et il nous a dit ouais, dans mon club, j'ai besoin de coach, etc., etc. Et à l'époque, il n'était pas du tout partenaire France, du coup, avec Basic Fit. Et du coup, voilà, on a eu cette opportunité, on s'est renseigné. Tous ceux qui étaient dans notre entourage, qui travaillaient aussi chez Basic Fit, nous ont dit ce club, c'était le club du Hayan, à côté de Bordeaux, sur la rocade bordelaise, ne le prenez pas, personne ne le veut, etc. Et puis finalement, nous, on trouvait que le club était sympa, on y a été, et on l'a visité, ça s'est bien passé, on a eu le feeling avec les hôtes d'accueil, et puis on a pris le club. Et puis maintenant, 5 ans après, je crois que c'est le deuxième club en France où il y a le plus de coachs. Donc, okay. Comme quoi, des fois, il ne faut pas écouter ce qu'on dit, parce que si on avait vraiment écouté les personnes, on ne l'aurait jamais fait, quoi.
Excellent, excellent. Ouais. Et est-ce que tu peux nous donner quelques petites recettes qui ont fait que toi, tu as réussi à démarrer facilement dans le coaching ? Ça a été quoi, en fait, les choses que tu as mises en place ou que tu as compris assez rapidement pour avoir des clients ? Ouais. Et je suppose que ce sont des choses que tu dis à tes coachs quoi, du réseau.
Exactement. Alors, l'avantage que moi j'ai eu, bon, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, c'est que du coup, quand j'ai eu cette opportunité avec Basic Fit, j'ai dû démissionner. J'avais une partie salariée dans mon ancien travail. J'ai dû démissionner. Mais du coup, je me suis retrouvé, voilà, 31 août terminé, 1er septembre, je commence à Basic Fit. Donc là, je n'avais pas le choix. Il fallait que ça cartonne parce que je n'avais pas de droit au chômage, je n'avais rien vu que c'était une démission. Et en plus de ça, vu que c'était de l'autre côté de Bordeaux, mes clients que j'avais en coaching, ça leur faisait faire une heure de route avec la rocade. Donc du coup, j'ai pas forcément beaucoup de clients qui m'ont suivi. Donc j'ai tout recommencé à zéro. Donc j'étais vraiment dos au mur. J'avais pas le choix. Il fallait que ça fonctionne. Donc l'avantage que j'ai eu ensuite, c'est que je m'étais formé, énormément formé. Je t'ai parlé tout à l'heure des formations, voilà, le BPJEPS, le DU, le BTS diététique. C'est pas forcément ces formations-là qui m'ont servi. En revanche, après, je me suis énormément formé, que ce soit chez Christophe Batz, chez HBX. J'ai fait toutes les formations, etc., sur le coaching. Et c'est vraiment ça, en faisant ces formations, en rencontrant des personnes aussi qui m'ont inspiré. Et c'est ça qui m'a donné envie. Et c'est grâce à toute cette formation. Quand je suis arrivé, j'étais prêt, en fait. Mmh. Je suis arrivé au 1er septembre, j'étais prêt. Alors, j'ai fait énormément d'erreurs, mais que maintenant, je ne referai plus. Mais c'est vrai que voilà, on avait quand même cette fibre et en quelques mois, ça a décollé.
Ok. C'est quoi les erreurs que tu as pu faire ?
Je pense comme tout le monde. Je suis arrivé, j'avais des flyers, j'avais investi dans des flyers, dans des cartes de visite, dans un site internet que personne n'a jamais regardé. C'était ce genre de choses. Après, j'avais fait d'autres choses qui étaient très bien à côté. Je suis arrivé avec Christophe, on a vraiment la même mentalité. On n'a pas peur de donner pour recevoir ensuite. Je me rappelle que le 1er septembre, on arrivait sur le club. Je m'étais déjà renseigné sur chaque hôte d'accueil. Si on a 4 hôtes d'accueil dans le club, on est arrivé le premier jour, ils avaient leur gourde, leur t-shirt personnalisé avec leur prénom. On avait mis notre truc, Donc, c'était, on voulait se les mettre un petit peu dans la poche, mais c'était vraiment sincère. Et c'est vrai que du coup, ça, c'était des petits cadeaux. Quand tu arrives premier jour, déjà, tu dis ça, ils ont tout fait. C'est vrai qu'ils nous ont vraiment permis, nous ont fait notre promotion auprès de la clientèle, etc. Et ça s'est fait très vite aussi grâce à ça.
Mmh. Ouais, les hôtesses d'accueil, enfin, les hôtes d'accueil, on va dire, sont des personnes qui voient énormément de monde. Et donc, c'est un potentiel assez énorme, quoi. Comme tu dis, si on arrive à leur faire comprendre, entre guillemets, l'apport et puis ce qu'on peut apporter aux clients ou autres, c'est clair que ça fait déjà pas mal. Ouais. Et du coup, avec Christophe, comment se passent les 6 premiers mois, voire la première année à Basic Fit ?
Alors du coup, là où on a fait encore une erreur, tu vois, c'est que on s'est monté directement en société, on a fait une SARL, on avait pris la meilleure, soi-disant le meilleur bureau comptable de Bordeaux, sauf qu'en fait, pas du tout spécialisé dans la partie coaching privé. Tu vois, il s'occupait de pharmacie, de restaurant, de trucs, mais pas forcément de salle de sport ou de société de head trainer. Du coup, ils nous ont fait mettre la partie coaching et la partie head trainer dans la même société. on pouvait être exonéré de TVA, mais vu qu'on était en société, on ne l'était pas. Enfin, voilà. Le statut n'a pas été… Ça, c'était vraiment une erreur. Mais néanmoins, voilà, ça s'est très, très bien passé. Genre Christophe, je sais qu'au début, c'était un peu compliqué. Je crois que son premier client, des fois, il le redit au coach, mais son premier client, il l'a eu au bout de 3 semaines. Pendant 3 semaines, il faisait de la présence, etc. Et ce premier client, c'était une programmation à 50 euros. Donc là, il commençait à transpirer, surtout qu'on avait, ouais, c'était un loyer à 1 800 euros. Donc, il y avait un loyer évolutif, mais bon, voilà, ça arrivait vite. Il fallait qu'à côté, on puisse manger. Moi, j'avais acheté un appartement. Voilà, on transpirait un petit peu. Et en fait, ça a très vite explosé. Je crois qu'en 6 mois, au bout du 6e mois, on était tous les deux à quasiment 5 000 euros de chiffre d'affaires.
Okay.
En 6 mois. Et à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens de communication, etc., qu'on a mis en place maintenant avec les nouveaux coachs. Mm-hmm. Tu vois, on faisait des trucs, les flyers, les cartes de visite et tout, ça ne servait à rien. Maintenant, on a des protocoles, etc., qui sont beaucoup plus efficaces.
Et à l'époque, vous étiez dans le modèle, on va dire, coach indépendant, ou tout de suite, vous aviez l'étiquette de head trainer?
Alors, du coup, on avait monté, on faisait les deux sur la même société. Ouais. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fermé tout ça, on a créé une FPT, du coup, la société, en SAS, et nous, on s'est mis auto-entrepreneur à côté. Et du coup, on payait un loyer, si tu veux, on a vraiment séparé les deux. Okay. On payait un loyer, mais comme nos coachs indépendants le font maintenant, directement à la société.
OK. Voilà. Okay.
On a commencé, on était trois sur ce club. On avait Laura, une fille qui était avec nous, qui nous accompagnait. Et après, on a eu une opportunité de reprendre une deuxième coach, puis de prendre un club, je crois que c'était 9 mois après. Parce qu'à l'époque, Basic Fit se développait, mais il fallait quand même faire ses preuves et tout. C'était moins développé, la partie coaching et trainer. Je pense qu'on a fait partie des premiers, entre guillemets, être trainer à succès. Toi, vite développé. Je sais qu'à l'époque, quand j'ai commencé, sur le record, je crois que c'était Marlène de Bordeaux qui avait 2 clubs, 3 clubs. Et si à l'époque, je leur avais dit un jour, on aura 21 clubs, enfin, c'était impossible d'ailleurs. Hein. Tout le monde m'aurait dit, mais non. Même Basic Fit nous aurait dit, non, c'est pas possible. Ouais. Et puis, 4 ans après, tu vois, on s'est développé. Et maintenant, on a plus de 80 coachs partenaires. Voilà. Donc, c'est allé très, très vite.
OK. Et comment tu expliques, du coup, cette augmentation en termes de club et en termes de coach, qu'est-ce qui a changé selon toi?
Déjà, la première chose, voilà, comme je disais, c'est qu'on a été les premiers, je pense, head-trainers à fonctionner, à comprendre, à avoir un schéma un peu différent. C'est-à-dire qu'avant, la partie head-trainer, c'était OK, j'ai un loyer à 1 800 euros, par exemple, et je suis head-trainer, je vais venir coacher, je vais payer 600 euros et je vais prendre 2 coachs avec moi qui vont partager le loyer. Avant, c'était ça. On partageait le loyer et après… Il n'y avait pas plus que ça. Nous, on a été les premiers à se dire, OK, nous, on va mettre plus de coachs pour que ça nous rapporte plus que le loyer qu'on paye. On va générer des bénéfices sur ces loyers-là. Mmh. On s'est dit, on va leur…
Parce qu'en soi, ça paraît très logique, quoi. Parce que sinon, c'est toi qui prends toute la responsabilité et c'est, à un moment Exactement. Donné, c'est compliqué, quoi, tu vois.
Exactement. Mais du coup, ça ne se faisait pas. Ce n'était pas dans les mentalités à l'époque. C'était vraiment partager le loyer. Et du coup, nous, on a amené un petit plus… En formant nos coachs, en les accompagnant, en leur fournissant une application, tu vois, en leur mettant des protocoles en place, des protocoles de vente, etc., du marketing. Et c'est comme ça que ça s'est développé. Ça s'est développé très vite grâce à cette valeur ajoutée en fait, qu'on a ramenée, tout simplement. Et Basic Fit, du coup, a vu ça. C'est servi un petit peu de nous aussi, ben voilà, comme tremplin pour développer d'autres head trainers, etc. Et après, avec d'autres head trainers, ben voilà, tu as déjà eu Léo qui est passé ici. Voilà, tu en as eu plusieurs. Tu as eu, comment il s'appelle, Orléans. J'ai mangé son. Tu as eu qui comme head trainer déjà sur les interviews?
Qui c'est que j'ai eu? J'en ai eu pas mal.
J'ai mangé son prénom. De Orléans.
Gary Babot.
Gary, voilà, je suis en contact en plus régulier avec lui. Voilà, Gary, etc. En fait, on s'est tous aidés, en fait, et on s'est tous développés. Et puis on s'est pris des idées de chacun, etc., justement pour développer cette activité-là, parce que ça n'existait pas forcément à l'époque.
OK. Et comment vous avez-vous vécu la période Covid, la période confinement?
Alors, la période confinement, assez difficile, entre guillemets, mais bon, ça a été un tremplin. Si tu veux, nous, vu qu'on se développait, on avait décidé d'arrêter au 31 décembre 2019 le coaching.
Okay.
Et Christophe, voilà, on s'était dit, en fait, pendant 2 ans, 2 ans et demi, on sait tout ce qu'on gagnait en coaching, on a vraiment, vraiment, vraiment charbonné. Et tout ce qu'on gagnait en coaching, on le réinvestissait dans la partie, dans la FPT, dans la société entraîneur. Parce que, ben, au début, elle générait pas de bénéfices, en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est nous qui rechargeons tous les mois. Voilà, on mettait du compte courant d'associés, etc. Et du coup, ben, arrivé à un moment, OK, maintenant, on savait qu'à telle date, vu qu'on avait un système de redevance évolutive, on avait un chiffre d'affaires prévisionnel, on savait qu'à telle date, on pouvait arrêter le coaching pour pouvoir se consacrer uniquement à la FPT et qu'on allait pouvoir se sortir un premier salaire. Donc, tu vois, on a déjà mis, quand je vois des fois des coachs qui, au bout de 2-3 mois, ils font que 2000 euros par mois et ils sont pas contents, mais moi, pendant 3 ans, quasiment 2 ans et demi, 3 ans, je me suis pas sorti de salaire, tu vois. Pas en tout cas avec, avec FPT. Et du coup, ben, vu qu'on avait arrêté notre activité de coaching, et ben, quand 3 mois après, il y a eu le confinement, on s'est retrouvé qu'avec la partie entraîneur. Du coup, on n'avait plus le droit aux aides alors qu'on avait cotisé pendant des années. Mmh. On n'avait pas le droit aux aides, on avait le droit juste aux aides sur la société FPT, mais vu que c'était encore le début, qu'on n'avait pas forcément géré de bénéfices, etc., voilà, ça a été un petit peu délicat, mais on s'en est sorti, ça nous a vraiment servi. Je pense qu'on a été surpris comme tout le monde, on n'en avait pas forcément mis de trésorerie de côté, ou en tout cas pas assez, etc. Donc on s'est un peu serré la ceinture, et puis ça s'est bien passé, on a sorti une formation. Je pense que ça aussi, ça nous a bien aidé. Si tu veux, dans l'idée, ce qui pouvait nous freiner avec Basic Fit, c'était la différence avec les autres entraîneurs. C'est-à-dire que je crois qu'à l'époque du confinement, on avait peut-être 10 ou 12 clubs. Mais pour pouvoir négocier demain 15 ou 20 clubs, il fallait que les autres entraîneurs, ben, qu'on puisse amener tout le monde vers le haut un petit peu. Tu vois, Basic Fit, ils n'avaient pas nous laissé 25 clubs et le numéro 2 français, s'il avait 3 clubs, ce n'était pas possible. Du coup, on discutait pas mal avec les autres entraîneurs. Benoît nous en envoyait pas mal au téléphone, etc., pour essayer d'un petit peu de les accompagner, si tu veux. Et du coup, on a sorti une formation entraîneur qu'on a filmé dans mon appartement à Bordeaux avec l'ordinateur, truc, un petit peu l'arrache. Et elle était vendue 1000 euros et on en a vendu 33 en 3 mois. Donc, on a fait 33 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ça, déjà, tu vois, on était enfermés, on ne pouvait pas travailler. L'État nous a interdit de travailler, mais du coup, on a quand même préparé cette formation. On y a passé des semaines enfermés dans l'appart, là. Mais du coup, ça nous a fait du bien. Voilà, on a fait du chiffre d'affaires. Ça nous a permis aussi de faire du réseau, de préparer la rentrée, etc. Et voilà. Je pense que ça a été un tremplin. Ça nous a bien remobilisés. On a trouvé des solutions. Et après le deuxième confinement, même s'il était plus long, du coup, parce que nous, vraiment, le premier confinement de 3 mois a été plus dur que le deuxième de 9 mois, tu vois.
Ouais.
On était prêts, on avait fait de la trésor, on avait pris le PGE, on était prêts. Du coup, le deuxième, ça s'est vraiment bien passé. On avait embauché en plus des salariés en alternance, on ne les a même pas mis au chômage partiel, tout le monde a continué à travailler, etc. On a préparé la reprise. Seule chose qui était compliquée, c'est qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer, quoi.
Mm-hmm.
Donc, mais ça a été un tremplin. Ça a été un tremplin, puis voilà, puis maintenant qu'on a vécu ça, c'est bon. Ouais. On n'a plus peur de rien. Il ne peut
rien vous arriver maintenant.
On n'a plus peur de rien.
Et comment tu as géré du coup le fait d'être coach et puis du jour au lendemain, arrêter le coaching?
Si tu veux, c'était il fallait que je le fasse parce qu'au bout d'un moment, la partie entraîneur qu'on voulait développer avec des revenus, parce que voilà, la grosse différence, c'est que la partie entraîneur, ça va moins vite pour générer des bénéfices. Par contre, c'est vraiment des revenus passifs. Contrairement à la partie coaching, demain, si tu ne vas pas coacher, tu ne factures pas tes clients. Voilà. Nous, la partie entraîneur, c'était vraiment ça. Et elle nous prenait vraiment de plus en plus de temps. Et on voyait qu'on avait des lacunes, mais qu'on voulait combler. Mais en faisant le coaching, ce n'était pas possible. Parce qu'en coaching, on faisait 30, 40 heures de coaching. Mais tu vois, on continuait quand même à tourner fort jusqu'au bout. Donc, la passerelle a été un petit peu… il fallait le faire. Il fallait le faire. Et puis après, je pense que si je ne l'avais pas fait au bon moment… Si j'avais voulu continuer, soit ma partie entraîneur ne se serait pas développée autant, mm-hmm. tu vois, soit la partie coaching, ça se serait dégradé avec mes clients, etc. Tu vois, je voulais vraiment faire de la qualité jusqu'au bout. Donc, un peu comme un sportif de haut niveau qui arrête sa carrière, tu vois.
Ouais.
Faut savoir l'arrêter au bon moment. Des fois, quand tu pousses un an, 2 ans de plus, tu vois.
Qu'est-ce qui a changé du coup au niveau de ton organisation le jour où tu n'avais plus du tout de coaching?
Là, ça a bien changé. Alors déjà, pour revenir au confinement, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un club dans Bordeaux Centre, Bordeaux Intendance. Et du coup, vu qu'on n'allait plus coacher, on avait une salle de réunion dans ce club-là, on avait une salle de réunion. Du coup, ben, nos journées, du coup, les horaires et tout, l'amplitude horaire, moi avant je débauchais à 21h, 22h, là du coup j'avais des horaires de bureau, on va dire. Donc du coup, on allait dans cette salle-là, et sauf qu'au mois de mars, ben, la salle a fermé. Et du coup, on avait tous nos papiers dedans, on avait tous nos trucs, tous nos classeurs de comptabilité, nos PC, nos trucs et tout. Du coup, compliqué, on a réussi, voilà, avec BasicFit et tout, à aller les récupérer lorsqu'un hôte d'accueil y allait. Et du coup, ben là, après le confinement, on a dit maintenant il faut qu'on prenne des bureaux. Donc ça a été la première chose. Il y a vraiment les horaires qui ont changé. Et ensuite, au lieu de me déplacer, d'aller au club comme je le faisais depuis des années, parce que travailler au club sur une table, ça va pour faire de la présence, etc. Mais demain, quand tu fais ta comptabilité, tes trucs et tout, il faut quand même être focus, concentré. Du coup, on a pris nos premiers bureaux dans Bordeaux Centre, à côté de la gare, un petit bureau voilà, de 10-15 mètres carrés. Dans un open space, mais voilà, nous c'était fermé. Et ensuite, vu qu'on s'est développé encore, qu'on a pris de nouveaux salariés, etc., maintenant on est une équipe de 4 plus Christophe et moi, on a repris encore de nouveaux bureaux. Là, on a pris un bail commercial là, 3, 6, 9 ans dans un château à Bordeaux. Donc là, on est hyper bien maintenant. Là, on a vraiment une qualité de vie. Voilà, on a trouvé, c'est un château que tu as quand tu fais le tour de la rocade là, au niveau du pont d'Aquitaine, c'est le château du Prince Noir. Et du coup, on a 100 mètres carrés de bureaux. Voilà, et puis là on est chez nous, on a tout équipé, voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même agréable, c'est vraiment un vrai confort, un vrai confort.
Et c'est quoi une journée type alors de Thomas aujourd'hui?
Alors la journée type de Thomas, vu que je peux arriver à n'importe quelle heure, vu qu'entre guillemets je suis patron, ben, j'arrive hyper tôt. Voilà, on pourrait se dire ben voilà, qu'on fait ses horaires, on peut embaucher à 10h, ben, du coup en général voilà, ça m'arrive qu'à 7h, 7h30 je suis au bureau. Christophe me rejoint et du coup tous les matins, donc c'est là où c'est sympa aussi, c'est vraiment ce que j'apprécie moi, c'est que je travaille mais je suis avec mon meilleur pote, donc c'est, et on s'entend bien, voilà, c'est pas évident mais on s'entend bien, on s'entend vraiment très bien sur cette partie là du coup tous les matins on déjeune ensemble, du lundi au vendredi c'est notre moment où on est tous les deux, donc on commence, on déjeune, on discute, etc. Et après en général ouais, vers 8h15, 8h30 mais on commence à s'installer, à prendre l'ordinateur, etc. Ensuite, on a nos salariés qui embauchent à 9h. Donc après, à 9h, tout le monde arrive. Donc nous, on a déjà pu checker un petit peu les points à voir. Souvent, on commence, surtout en début de semaine, on commence par une réunion avec l'équipe, savoir un petit peu les tâches de chacun, etc. Qu'est-ce qu'il y a à faire.
C'est quoi les fonctions du coup des personnes qui travaillent avec toi en tant que salarié?
Du coup, j'ai 4 personnes. J'ai une community manager, webmaster, qui va gérer les réseaux sociaux, etc., et le site internet. On a une comptable, Justine, qui s'occupe de toute la partie comptabilité et la partie aussi un petit peu juridique en lien, parce qu'on a aussi un cabinet d'avocats, mais qui est un prestataire. Donc, elle envoie les contrats au coach, elle envoie les factures, etc. Et ensuite, on a Chloé, qui est chargée de recrutement. Voilà, donc c'est elle qui fait les appels téléphoniques, qui fait le closing, etc., pour les coachs. Et enfin, là, dernièrement, on a recruté donc Romain, qui est assistant de direction. Moi, okay. Du coup, qui chapeaute un petit peu tout ça, là, qui a commencé en freelance. Et voilà, le but du jeu, c'est qu'arriver normalement à 100 coachs, on puisse l'embaucher en temps plein.
Donc, excellent.
Donc, du coup, voilà, ça fait un petit peu de vie. Du coup, on est 6 au bureau, plus Pumba, plus moi, j'ai mon chien qui est avec moi aussi. Donc, ça, c'est vraiment sympa aussi.
Ok. Voilà. Et comment vous. Parce que là, il y a deux façons de voir le business. Et soit tu fais un business seul, ou soit tu le fais à plusieurs. C'est toujours, enfin, on a toujours. Moi, j'ai toujours deux sons de cloche. C'est bien d'être avec son meilleur pote ou de quelqu'un qu'on connaît très bien, parce que voilà, il y a le feeling, il y a des choses. Il y en a d'autres qui disent, c'est un peu suicidaire, parce que si ça se passe mal dans le boulot, bah en fait, tu perds ton pote dans la vraie vie. Comment vous faites pour gérer au quotidien les aléas, on va dire, de l'entrepreneuriat? Parce que je suppose que vous avez quand même eu, voilà, il y a des hauts, des bas. Comment vous faites au quotidien pour avoir toujours cette relation à la fois privée et aussi professionnelle?
Sincèrement, je pense que voilà, là, c'est vraiment qui tout double. Ben nous, voilà, ça marche très, très bien.
Mais et vous l'êtes dit au début, avant de construire quelque chose, vous l'êtes dit que ça pouvait capoter, puis ben, pas forcément.
On était jeunes, donc on ne se l'est pas dit. Sauf que quand on est arrivé chez notre avocat qui nous a fait les statuts, il nous a dit on va faire également un pacte d'associés et on va mettre les clauses de séparation. Alors on s'est regardé, attends, on monte la société, on parle déjà. Il nous dit non, vous allez en plus, on a été très bien accompagnés. Et du coup, on va faire un pacte d'associés. Et voilà, si demain, vous engueulez, il y a quelque chose qui se passe, Ça, ça va à lui. Lui, ça, c'est pour lui, etc. Et du coup, avant même de commencer, nous, on n'y pensait pas. Tu vois, ça, t'arrives, toi, t'es jeune, t'es dynamique, t'as envie de... Voilà. Et en fait, si, il nous a assis-vous, on va faire ça. Et du coup, on a déterminé plein de clauses.
Ouais, c'est un peu comme dans un mariage, hein. C'est exactement la même chose.
C'est ça. Et du coup, je pense que déjà, ça a bien structuré. Et après, moi, je pense que pour être associé avec quelqu'un, toi, parce que des fois, c'est délicat. Moi, j'arrive des fois, je vais faire le double d'heure que lui dans la semaine. Tu vois, et ça, il faut se dire, attends, à la fin du mois, on fait 50-50 parce qu'on a partagé on a le même nombre de parts. On va faire 50-50 sur les salaires, mais j'ai travaillé beaucoup plus. Mais heureusement, la fois d'après, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai un déplacement, j'ai un truc ou quoi, je sais très bien que de l'autre côté, il va faire la même chose pour moi. Et la semaine d'après, ça va être lui, etc. Et ça, voilà, c'est ça qui est important, parce que des fois, quand tu vois que tu travailles plus que ton associé, tu vois, ça peut vite mettre des... Et même si j'avais à le faire, ou même si lui devait le faire pour moi, travailler plus que moi pendant un mois ou quoi, il le ferait parce que je suis son meilleur pote, tu vois. Comme c'est pas évident comme relation. Toi, j'ai d'autres sociétés où du coup, ben, c'est plus conflictuel. Voilà. Ok, on partage, on est trois ou quatre, on partage. Par contre, ben, faut qu'on travaille le même, qu'on fournisse la même charge de travail, tu vois. Mm-hmm. Et j'ai une autre situation où ça le fait. J'ai aussi un petit peu d'immobilier avec une SCI. Je suis associé avec mon beau-frère, tu vois. Et du coup, vu que c'est la famille, ça me dérange pas de faire plus de trucs que lui, en fait. Parce que du coup, je le fais pour ma famille, pour mes petits-neveux, tu vois, pour ma sœur, etc. Mais c'est vrai que sinon, ça peut être... faut bien poser les choses et faut le faire, faut avoir envie de le faire, quoi, tu vois.
Vraiment, là, comment vous organisez au quotidien? Je suppose que chacun a des tâches spécifiques. Comment vous organisez?
Alors, l'idée, si tu veux, au départ, vu qu'on s'est formé, ben, comme je te dis, nous, Christophe a fait le même bac que moi. On a un bac STG. Donc, on STG, tu chapeautes un peu tout. Après recul, franchement, ben, c'était peut-être le meilleur bac qu'on ait pu faire parce qu'on a fait un petit peu d'économie, un petit peu de droit, un petit peu de compta, un petit peu de marketing. Donc on a touché du doigt un petit peu tout, et du coup, ben, on a appris sur le tas, on a vraiment appris sur le tas. Donc que ça soit Christophe ou moi, on est capable de tout faire. C'est-à-dire que moi, je suis capable de faire la comptabilité, de faire des tunnels de vente, de faire le site internet, de faire les réseaux sociaux, le recrutement, les contrats, etc. Et Christophe pareil. Donc ça veut dire que quand il y en a un qui part en vacances, l'autre peut chapeauter, etc. Donc on est capable de tout faire maintenant, ben, depuis maintenant allez, un an et demi, deux ans, on a séparé. Christophe, du coup, ben, pour pas tout faire en doublon, en fait, pour pas se marcher dessus, Christophe va plus gérer la partie comptabilité, fiscalité, les montages avec le holding, des trucs comme ça. Et moi, plus la partie marketing et la partie juridique avec les coachs, etc. Voilà. Okay. Donc, on s'est vraiment séparé les tâches, même si on est capable de tout faire. Après, ben, voilà, pour que ça déroule la journée, pour gagner du temps, on travaille comme ça. Et après, là où je pense que c'est vraiment une force qu'on a, c'est que du coup, ben, on est deux. C'est aussi pour ça que tu le disais tout à l'heure, comment on a fait pour se développer si vite. C'est vraiment une force. Oui. Parce que moi, du coup, je cogite beaucoup la nuit, je me réveille, j'ai des trucs et tout. On est vraiment deux, voilà, les deux opposés, tu vois, qui se complètent. Christophe, lui, il dort, il est tranquille, ouais, il est serein. Moi, par contre, je suis un peu stressé, je vais réfléchir, je vais prendre mon téléphone, je vais marquer des notes. Et le lendemain, je vais lui expliquer ce que, pendant qu'on prend le petit-déj. En général, c'est au petit-déj qu'on a les meilleurs, qu'on a nos meilleures idées. Je lui explique le truc et lui, il va me dire « Ah ouais, c'est bien. Par contre, on va faire ça comme ça, comme ça. » Tu vois, le fait d'en parler ensemble après, Christophe a d'autres idées et on restructure tout, si tu veux. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on se complète. C'est vraiment le fait de l'expliquer. Et après, lui, avec ses idées, etc., on arrive à, tu vois, à bien développer et à mettre des choses en place.
OK. Comment tu vois, toi, l'évolution du coaching depuis, bah depuis que tu as démarré et avec ce qui s'est passé avec le confinement, la COVID et la suite? Comment tu vois les choses?
Bon, déjà, moi, je le vois que ça se voit. C'est notamment ici à Bordeaux, dans les grandes villes, c'est quand même de plus en plus la mode. Moi, j'ai plein d'amis, etc., qui se font coacher. À l'époque, quand tu étais coach privé, etc., c'était un petit peu pour une clientèle assez aisée. Maintenant, il y a vraiment beaucoup de monde qui touche au coaching. Il y a beaucoup plus de coachs aussi dans le coaching privé. Tu vois, nous, rien que sur la partie bordelaise, là, on a 35 coachs indépendants, si tu veux. Mmh. Tu vois, on est quand même, voilà, on est quand même en place sur Bordeaux. Le Covid, au début, nous a fait un petit peu peur parce qu'on se dit, est-ce que ça va devenir la mode, etc., de faire du coaching online? Parce que nous, clairement, nous, c'est vraiment l'opposé. Hein. C'est, tu payes une redevance pour avoir accès à un club et à d'autres prestations avec un accompagnement, etc. Mais c'est vraiment du présentiel. Donc, au début, on s'est dit, oula, le online, ça nous faisait un petit peu peur. Et puis, finalement, je pense que ça a été pas mal parce qu'il y a beaucoup de personnes, mais, qui avaient le temps, qui étaient bloquées chez eux, qui se sont mis au coaching grâce au online et ensuite qui, du coup, ont pris goût un petit peu et qui, du coup, après, ont découvert le présentiel. Tu vois, je prends un exemple tout bête, mais c'est un petit peu comme Uber Eats ou Deliveroo. On était en confinement, le seul plaisir qu'on pouvait se faire, c'était se faire livrer un petit truc à manger, etc. Sauf que quand ça a réouvert, tout le monde est parti au restaurant. Tu n'avais plus envie de te faire livrer, tu avais envie de voir du monde, de sortir, etc. Et nous, c'est un petit peu le ressenti qu'on a eu. C'est que tout le monde avait fait un petit peu de sport pendant chez soi, etc. Sauf que dès que ça a ouvert, tout le monde est venu en salle de sport, venir s'entraîner avec les copains, avec un coach en présentiel. On avait, les clients ont vraiment eu envie de retrouver ce lien avec les gens et de ressortir, de bouger, etc. Donc nous, ça a vraiment re-augmenté. Hein. On a vraiment d'adhérents, le nombre de demandes en coaching des coachs qui a vraiment re-augmenté depuis le Covid, plus qu'avant.
Ok. Et qu'est-ce que vous dites à un coach qui démarre chez vous pour essayer d'atteindre, on va dire, un salaire correct le plus rapidement possible? C'est quoi les next steps à accomplir pour vivre du coaching le plus rapidement possible?
Déjà, c'est l'implication. Je pense que ça part de là. Si tu n'es pas impliqué, ça ne marche pas. L'implication et la présence sur le club. Un coach qui pense que ça va se faire tout seul, ça ne marchera pas. Il faut vraiment être présent et être impliqué. Parce qu'après, tu peux être présent 12 heures à la salle, mais si tu es assis, que tu es renfermé sur toi et que tu es avec ton téléphone, ça ne fonctionne pas. Nous, vraiment, à Basic Fit, on va dire, c'est vraiment la facilité. Si tu arrives dans le club, tu fais pas mal d'heures de présence, tu as le sourire, tu dis juste bonjour aux gens, et tu retiens quelques prénoms au fur et à mesure, franchement, ça se fait assez facilement. Maintenant, il faut pouvoir ne pas être enfermé sur soi, dire bonjour, aller serrer des mains, etc. Et rien qu'en étant sympa avec les gens, tu vas arriver à générer tes premiers prospects, tes premiers clients. Mmh. Tu vois. Donc, c'est vraiment là que ça commence. Après, nous, si tu veux, on les accompagne. Tous les coachs commencent par une formation initiale. Donc là, c'est maintenant vu que pour pouvoir se développer sur 21 clubs, hein, au début, c'était Christophe et moi qui partions à Paris, à Lille, à Toulouse, etc. Sauf qu'après, c'était plus possible parce que des fois, on avait des coachs qui commençaient à Lille, en même temps à Toulouse, en même temps à Lyon. Donc, on ne pouvait pas se diviser. Et du coup, on s'est servi du deuxième confinement de 9 mois pour faire toute notre formation initiale, la retravailler, la compléter et on l'a retournée dans des studios en online, si tu veux. Mmh. Donc, du coup, maintenant, toutes nos formations initiales durent 7 jours. Il y a 7 modules clés. Et du coup, on l'a fait en online. Donc, du coup, dès que le coach attaque chez nous, il reçoit sa formation. Il est censé faire sa formation avant même de rentrer dans le club. Mmh. Du coup, il a déjà des bases. Et ensuite, une fois qu'il attaque dans le club, l'avantage qu'on a également, c'est qu'on a mis un accompagnement en place. Nous, ce qu'on appelle le Road to Success, c'est un accompagnement, si tu veux, sur 12 semaines. Et chaque semaine, il y a un rendez-vous en présentiel avec un de nos responsables. Okay. On a mis un responsable. C'était un de nos points faibles, je pense, sincèrement. C'est que vu qu'on se déplaçait plus sur les clubs, on faisait le lien en visio, au téléphone, etc. Mais voilà, le présentiel, c'est quand même hyper important. Du coup, maintenant, on a mis un responsable sur chaque région. Donc voilà, j'ai un responsable. C'est des coachs à nous, hein, des coachs à nous qui sont affiliés, mais qui ont un contrat à côté, un mandat de représentation de la société FPT, et ils sont rémunérés pour aller accompagner les autres coachs.
Voilà. Excellent.
Donc okay. Du coup, tu attaques chez nous, tu as ta formation initiale, tu fais sur ton ordinateur chez toi, tu arrives dans le club, et le premier jour que tu arrives dans le club, tu as le responsable, c'est un PT leader qu'on appelle, qui est là, qui te serre la main, qui te présente aux hôtes d'accueil, qui te remet ton textile. Et tu commences par un premier rendez-vous et tu as un rendez-vous chaque semaine pendant 12 semaines. Donc voilà, c'est vraiment… ils ne sont pas tout seuls. Ils ne sont pas tout seuls. Après, on ne fait pas le travail à leur place. Ce qu'on dit souvent, nous, on vous donne le gilet par balle, on vous donne la mitraillette, après, c'est à vous d'aller au combat. Quoi. Voilà. En tout cas, on les équipe.
Et du coup, chacun de tes clubs a une sorte de manager ou pas forcément?
Du coup, non, c'est par région, en fait.
Par région,
voilà. Okay. C'est par région. Là, du coup, à Bordeaux, c'est là où on a le plus de clubs. On a 7 clubs. Du coup, j'ai Michael Gomis, qui est coach justement sur le Basic Fit du Hayan, que je parlais tout à l'heure, et qui, lui, en plus du coaching, a des heures dédiées à cette activité-là.
Okay. Voilà.
Et du coup, il chapeaute. Il a un nombre de visites minimum à faire par mois sur chacun des clubs. Il a aussi un compte-rendu. Chaque mois, on a une réunion. Il nous fait un compte-rendu de chacun des coachs. Il doit au moins avoir un contact avec les coachs au moins 2 fois par mois, etc. Il a un compte-rendu à nous faire, en fait. Et nous, comme ça, chaque mois, on sait quel coach, etc. Voilà. Et en plus de ça, nous, on est en relation aussi avec eux, tu vois. On les a au téléphone régulièrement, etc. Mais là, au moins, lui, il se déplace, il les voit, voilà, tout le temps.
Du coup, dans votre réseau, en moyenne, un coach qui rentre dans votre réseau, il fait combien de chiffres d'affaires ? Quel est l'objectif que vous lui fixez ?
Alors ça, on le fixe ensemble justement dans les fameuses 12 semaines. Ouais. Je crois que c'est sur le premier rendez-vous. Et c'est là aussi où on les sensibilise. OK, combien de chiffres d'affaires tu veux gagner à terme ? Le mec, il va nous dire 5000 euros par mois. OK, c'est vraiment comme une planification d'entraînement. 5000 euros par mois, c'est ton objectif. C'était 15 kilos que tu veux perdre. Voilà, maintenant, tu veux y arriver dans combien de temps ? OK, en 12 mois. OK, ben, du coup, on va faire, donc ça fait des fourchettes, je ne sais pas, de 500 euros par mois, etc. Et on va se faire un chiffre d'affaires prévisionnel. Mais c'est le petit leader qui le fait avec le coach. Mais c'est vraiment le coach qui va remplir pour essayer de le sensibiliser. Mmh. Et c'est là où on en profite pour le sensibiliser. OK, tu veux augmenter ton chiffre d'affaires de 500 euros par mois. Très bien. Mais maintenant, combien d'heures tu es prêt à faire ? Combien d'heures de présence tu es prêt à faire pour justement atteindre ton objectif ? C'est un petit peu vraiment comme en coaching, en fait. Hein. C'est voilà, tu veux perdre 15 kilos, OK, on va perdre 2 kilos par mois. Par contre, voilà. Si tu me dis que tu veux venir que t'entraîner une fois par semaine, ça ne marchera pas. Par contre, si tu peux venir 3-4 fois, etc., voilà. Là, c'est exactement pareil.
OK, excellent.
Et donc, tu vois, pour revenir à. Voilà, en moyenne, c'est entre, on va dire, entre 3 et 5 000 euros. Tu vois, en comptant vraiment tout le monde. Parce qu'après, j'en ai. On a des coachs qui cartonnent sur Paris, même sur Lyon ou sur Bordeaux. Ben notamment nos petits leaders qu'on a choisis, c'est pas pour rien, on les a sélectionnés parce que ça faisait partie des coachs qui cartonnaient. Et ils ont dépassé depuis un moment. Là, tu vois, je te parle de Mickaël Ohayan. Mickaël, il a commencé. Lui, il avait vraiment un mindset d'entrepreneur. Il n'a pas fait d'études, il n'a pas eu de bac. Et il est arrivé chez nous, il a passé son BPJEPS. Et il a fini fin juin. Il a dit : moi, je veux attaquer 1er juillet. Tout le monde, tous les coachs, la plupart, ils disent : moi, je veux attaquer 1er septembre. Et lui, pour profiter de l'été, partir en vacances, truc. Et lui, il a dit non, moi, je vais commencer 1er juillet. Comme ça, vu qu'il y avait d'autres coachs, déjà, il y avait 4 ou 5 coachs sur le club. Il dit, pendant qu'ils seront en vacances, ben moi, je vais charbonner et je serai quasiment tout seul sur le club. Il a commencé 1er juillet. Fin août, il était à 5000 euros de chiffre d'affaires. Avec du récurrent, avec des mensualités, avec des contrats, etc. Tu vois.
Okay.
Donc toi, après, des comme ça, on n'en a pas 50. Toi, je ne vais pas te mentir. Mais tout est possible. Mmh. Celui qui, ça dépend vraiment de l'état d'esprit, etc. Voilà. Après, en général, voilà, nous, on parle souvent de fourchette de 500 euros. Tu vois, tu vas commencer ton premier mois, 500 euros, le deuxième mois, tu vas être à 1000, 1500, 2000, etc. Normalement, à partir du septième mois, tu es autour des 3500 euros à peu près. Voilà. Après, tout dépend de l'investissement et ça dépend toujours, voilà, ça dépend un petit peu de tout ça.
Qu'est-ce que tu dis aux coachs qui te disent c'est impossible de vendre du coaching à je sais pas, 250, 500 euros par mois dans un club où les clients payent 19, 29 euros par mois ?
Ça, on en a, qui disent que voilà, ça ne marche pas, vas-y, vite. L'avantage que nous, on a maintenant, moi, ce que je leur dis, en fait, c'est qu'on a des success stories. Moi, je n'ai plus rien à prouver, si tu veux. Parce que les coachs qui font ça, on les a. Mais, nous, c'est tout simplement, je leur donne le numéro de téléphone, ils l'appellent. Tu vois, c'est. Voilà. Et comme des fois, on leur dit, ouais, tu vois, j'ai des coachs, des fois, avec qui on est au téléphone, notamment pour le recrutement, mais ils me demandent, ouais, mais est-ce que je suis sûr d'y arriver ? Quelle garantie vous me fournissez ? Mais je leur dis, nous, que ce soit Basic Fit ou FPT, on est les head trainers numéro un en Europe, c'est nous qui avons plus de clubs, plus de coachs. Je dis, nous, on n'a pas de garantie à te fournir, c'est l'inverse. C'est plutôt toi, quelle garantie tu vas me fournir ? C'est même pas forcément une garantie financière, est-ce qu'il va bien payer ses redevances, mais est-ce que tu vas bien t'impliquer ? Est-ce que tu vas mettre vraiment de la qualité, de la valeur à tes clients, etc. Mais nous, on n'a plus rien à prouver, si tu veux.
Ce qui est assez drôle, et c'est marrant, je vois aussi en formation avec des coachs ou autres, c'est qu'est-ce que tu me garantis que ta formation ou ton accompagnement va fonctionner ? Mais je lui dis, mais en fait, moi, je te donne l'écosystème. Après, je veux dire, tu sais, aujourd'hui, c'est tellement facile. Tout le monde se repose sur les autres. Et en fait, c'est de se dire, oh bah ouais, mais si ça ne réussit pas, ce n'est pas de ma faute, c'est de leur faute. Mais en fait… Mais non, mais il faut retourner le système, tu vois, parce qu'aujourd'hui, tu auras beau avoir le meilleur plan devant toi, si tu ne veux pas le mettre en place, c'est un peu comme nos clients en coaching sportif, hein, tu auras beau être le meilleur personal trainer, s'il ne suit pas tes conseils, ça ne fonctionnera pas, quoi. Donc, c'est vrai que c'est toujours le même système, c'est… Ah ben non, moi je me décharge, si ça marche pas, c'est pas de ma faute, c'est de leur faute. Et c'est vrai que c'est toujours un, et je l'entends sur des clubs de fitness, on va dire, qui sont à 19, 29 euros, comme plein de choses qu'on entend. Il y a beaucoup de, on va dire, d'idées reçues sur ça, quoi.
Mais c'est exactement ça. C'est vraiment comme en coaching, hein. Tu vas avoir ton client, il va jouer le jeu quand tu es là. Il va bien s'entraîner, puis il va te faire deux, trois séances en coaching. Sauf que si à chaque fois qu'il sort du coaching, il va faire un McDo, il y a une partie du résultat, ok, c'est grâce à nous, mais il y a une partie, la plus grande partie, c'est grâce à lui. Si le coach, dès qu'il a fini son rendez-vous avec nous, dès qu'il a fini son accompagnement, il rentre chez lui, il va jouer à la PlayStation, ça ne fonctionnera pas, si tu veux. C'est vraiment dans son implication, c'est grâce à son implication qu'il va avoir des résultats. Maintenant, encore une fois, sincèrement, nous, maintenant, ça va faire 5 ans bientôt qu'on est traîneur. On a eu des échecs, hein, des coachs qui n'ont pas fonctionné, etc. On a toujours eu un petit peu de turnover, tu vois. On n'a jamais eu un coach qui ne fonctionnait pas en écoutant ce qu'on a fait. Ceux qui n'ont pas réussi, c'est parce que soit ils n'étaient pas faits pour ça, tu vois, parce que quand tu es indépendant, tu fais tes horaires. Donc il y en a, comme moi, je te disais, je fais mes horaires, je pourrais arriver à 10h, mais j'arrive à 7h ou à 8h au bureau. Mais les coachs, c'est pareil. Quand ils font leurs horaires, il y en a, ils viennent 2h par jour. Et il y en a qui vont venir, ils vont venir de 8h à 21h. Tu vois, c'est toujours pareil. Donc quelqu'un qui fait vraiment tout ce qu'on lui dit, qui fait la formation initiale en entier, qui fait l'accompagnement, etc., on n'en a aucun qui a tout fait et qui n'a pas réussi. Il y a tellement de clients, si tu veux, que même si toi, là, j'étais au club de l'intendance hier soir, il y avait 6000 adhérents. Enfin, même si la vente, si tu commences, que tu apprends, que voilà, sur 10 clients, tu arrives à en closer peut-être que 5, mais vu que tu en as, tu vois, dans un petit club, si tu as 200 personnes, effectivement, il ne faut pas se louper. Mais là, il y a tellement de monde que du coup, si tu suis le process, ça fonctionne. C'est mathématique, en fait. Il y a tellement de monde, il y a tellement de prospects.
Qu'est-ce que vous leur dites sur la partie vente? Parce que c'est souvent un blocage aussi des coachs. Je ne sais pas vendre, j'aime pas ça, etc. Est-ce que tu as des petits conseils à partager de ce côté-là?
Nous, on essaye plutôt… Voilà. Déjà, première chose, quand le coach s'installe avec il présente les prestations, etc., dans son process de vente, il finit par les tarifs. Déjà, la première chose, c'est qu'on ne va pas se mettre en face à face. Tu vois, c'est pas le vendeur de voiture, etc., qui veut te coincer, qui veut te faire signer. On va plutôt se placer à côté de lui et se placer à sa droite, vers le futur, tu vois. Et l'idée, c'est plutôt de lui proposer l'accompagnement. Donc voilà, par rapport à tes résultats, par rapport à tes objectifs, pardon, voilà ce que je peux te proposer. On lui propose la solution, etc. Mais c'est vraiment plus un accompagnement, tu vois. C'est vraiment plus là-dedans pour arriver à tes résultats. Voilà les deux solutions. Qu'est-ce que tu préfères? Mais voilà, il n'y a pas de confrontation. Est-ce que je vais te signer? Est-ce que je vais te truc? Tu vois, on va s'adapter au budget du client. On va s'adapter, voilà. Et en fonction du budget, on va proposer telle et telle prestation, si tu veux. Mm-hmm. Et c'est vraiment plus dans l'accompagnement. Voilà. Écoute, moi, je suis là pour t'aider. Je veux t'aider. Maintenant, voilà, c'est un tarif. Et après, tu veux, dans la formation, pareil, on aura préparé déjà, on leur fait travailler sur toutes les objections possibles. Et cette formation, on la met à jour. C'est-à-dire, des fois, j'ai des coachs au téléphone. Ah, j'ai telle personne, elle m'a dit ça, ça et ça. Donc, du coup, on trouve la solution avec lui. Et du coup, on va la rajouter. Donc, maintenant, les objections, on a l'habitude de les traiter, quoi.
Mmh. OK. Et en termes de productivité, est-ce que tu as des conseils à partager au coach? Parce que souvent, on s'aperçoit que le coach part un petit peu dans tous les sens et il n'y a pas trop d'organisation. Et puis forcément, dans notre business, surtout dans un business 100% physique, on vend notre temps contre de l'argent. Donc, si à un moment donné, t'es, au niveau de la gestion du temps, ce n'est pas OK, ça va être compliqué de pouvoir développer son business. Qu'est-ce que tu leur dis par rapport à ça?
Alors ça tombe bien parce que ici c'est moi dans mes tâches, c'est moi qui m'occupe de ça, si tu veux, qui le gestionnaire des tâches, etc. Donc là, tout simplement, nous ce qu'on utilise en tout cas pour nous, et que je le mets en avant dans nos formations, c'est qu'il y a des applications. Alors nous, on utilise Monday là pour le pro, mais tu as Asana, une application qui est gratuite, une gestionnaire de tâches où tu vas pouvoir justement te marquer tes tâches, te marquer qui doit s'en occuper, à quel jour, à quelle heure, etc., par ordre de priorité. Donc, un des conseils que nous, on met en avant, c'est vraiment, déjà, au lieu de se dire « ah ouais, truc » ou de le marquer dans son téléphone ou quoi, utilise un gestionnaire de tâches, c'est gratuit et ça va te permettre de t'organiser. Et après, pour les personnes qui ont tendance à se disperser, c'est savoir s'isoler. Tu vois, moi, je prends l'exemple de Christophe. Christophe, il est capable de faire sa comptabilité, mais il y a quelqu'un, truc, il va parler, etc. Donc, lui, il sait très bien que quand il bosse, Christophe, il faut qu'il s'isole. S'il fait quelque chose, il faut qu'il se concentre. Mmh. Il va s'isoler, il va se poser 2 heures. Et il va être beaucoup plus efficace. Tu vois, il va perdre 2 heures, mais s'il avait fait au club ou avec, il aurait mis 4 heures. Tu vois. Ouais. Donc, savoir s'isoler si tu as tendance à te disperser, Et après, ben ouais, s'organiser, quoi. Gestionnaire de tâches, c'est, voilà, puis t'as des priorités, etc. Parce que sinon t'en as plein la tête, et tu oublies, voilà, prendre, voilà, et puis marquer, quoi. Grâce au gestionnaire de tâches, tu peux prendre des notes, tu peux tout noter, parce que sinon, on oublie.
Un autre axe aussi, c'est la fidélisation. Qu'est-ce que tu leur donnes comme outil ou comme idée pour justement fidéliser leurs clients sur le long terme?
Ouais, alors ça, c'est encore une fois, je vais reprendre un petit peu voilà, la partie entraîneur et la partie coaching, ça se ressemble. Nous, pour fidéliser nos coachs, il faut qu'ils aient des résultats. Donc, leur objectif, ben, c'est le chiffre d'affaires. Donc, si demain j'ai un coach qui gagne 5000 euros par mois, jamais il partira. Si en plus de ça, l'ambiance dans le club, il est cool, c'est cool avec ses collègues, avec les autres entraîneurs, avec les autres personnels entraîneurs, et que son cadre de travail est bien. Donc, cadre de travail, Basic Fit, l'été, on a la clim, l'hiver, on a le chauffage, le matériel, il est cassé, 48 heures après, il est réparé. Donc, le cadre, on l'a. L'ambiance avec les coachs, ben, ça, on peut le travailler en faisant des événements, tu vois, en faisant des petites sorties, etc. Et après, ben, le chiffre d'affaires, c'est en l'accompagnant, on va réussir à maintenir et atteindre les objectifs. Donc, pour moi, un coach à qui tu fais un entraîneur qui respecte ces trois-là, si le coach, il gagne très bien sa vie, il est content d'aller au travail et que, voilà, il travaille dans un beau cadre, je ne vois pas pourquoi il partirait, tu vois. Mmh. Du coup, en coaching, ça va être la même chose. Si ton client, un client qui a des résultats, il a fixé 15 kilos au bout d'un an, il arrive à ses 15 kilos, il n'en aura jamais assez. Une fois qu'il aura perdu du poids, il va vouloir remuscler un petit peu ici, truc. Moi, j'ai des clients, je les ai gardés peut-être pendant 4 ans ou 5 ans. Tu vois, ça commençait par une perte de poids. Après, on a remusclé, retonifié. Et à la fin, ça partait sur un marathon, tu vois. Donc, des trucs complètement… Mais ceux qui arrêtent, c'est ceux qui n'ont pas de résultats, en fait. Tu vois, demain, il n'y a jamais un client qui a des résultats, il n'en aura jamais assez. Tu es toujours satisfait, il n'en aura jamais assez. Et donc, du coup, ben, votre client, c'est pareil en coaching. S'il a des résultats, s'il est content de venir s'entraîner, s'il prend plaisir et que dans la salle, ben, ça se passe bien, le cadre est sympa, c'est sûr qu'aller s'entraîner, avoir des résultats, mais si tu es dehors pendant le confinement et qu'il pleut, etc. Voilà. Donc là, si tu mets ces trois choses-là, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison.
OK. Et du coup, aujourd'hui, tu es passé de technicien à manager entrepreneur. C'est quoi aujourd'hui qui te fait avancer?
Ma motivation? Bah, alors déjà, je pense que ce soit Christophe ou moi, on est des compétiteurs. Vu que voilà, on est des anciens athlètes de haut niveau. Moi, j'ai fait des sélections en équipe de France de judo, etc. On est vraiment des compétiteurs. Donc du coup, on n'en a jamais assez. Tu vois, il y en a des fois, et je respecte totalement, hein, j'ai des coachs qui sont comme ça. Qui, voilà, ils veulent. J'avais le cas avec une coach, une fille qui était sur le club. Elle travaillait à l'époque dans l'Orange Bleu, pour ne pas citer. Elle faisait beaucoup de cours collectifs. Elle était salariée, donc pas forcément une grosse rémunération. Et bien, elle est venue chez nous pour travailler moins. Donc, elle faisait que 20 heures. Elle est passée de 35 à 20 heures pour s'occuper de ses enfants. Et du coup, elle fait 4 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois. Donc, à la fin du mois, une fois qu'elle a payé son loyer, il doit lui rester entre 2 500 et 3 000 euros. Mais elle n'en veut pas plus, en fait. Tu vois, donc il y a vraiment, voilà, ceux qui en veulent juste assez pour avoir un confort de vie, et après t'en as qui, comme nous actuellement avec Christophe, qui sont morts de faim et qui veulent se développer, etc. Après, peut-être que ça changera. Là, tu vois, j'ai pas d'enfant, etc. Peut-être que demain j'en ferai un petit peu moins, etc. Mais pour l'instant, on est vraiment dans le développement, accompagner nos coachs, leur apporter de la valeur ajoutée et se développer à fond.
Ok, c'est quoi vos objectifs du coup pour les prochaines années?
Là, on est à 21 clubs et 80 coachs. On n'a pas forcément un objectif de club, parce qu'un objectif de club, avoir des clubs, etc., juste pour l'ego, ben, c'est des loyers en plus, hein. Nous, on est plutôt sur un objectif de chiffre d'affaires et de coach. Donc là, on voudrait passer à 100 coachs. Je pense que d'ici cet été, on sera à 100 coachs. On arrive à peu près à avoir 5 coachs supplémentaires chaque mois. Okay. Là, on a investi, tu vois. Là, on a 21 clubs partenaires chez Basic Fit. Donc, on a les clubs pour pouvoir mettre les 100 coachs. Là, les clubs, on les a. On a le potentiel, tu vois. Donc, maintenant, il faut qu'on remplisse au fur et à mesure.
C'est combien de coachs pour un club environ, en moyenne?
5 à peu près. Du coup, j'ai des clubs, après des très beaux clubs comme à Bordeaux, où des fois j'en ai 7, voire 8. Et après, j'ai des clubs où j'en ai moins, où j'en ai peut-être que 2 ou 3. Mais parce que les clubs, on les a acquis plus récemment. Et du coup, ben, on attend que les 2 ou 3 fonctionnent bien pour en rajouter un autre par la suite, etc. Moi. Mais là, moi, normalement, une fois que le club, ça fait au moins 1 ou 2 ans qu'on l'a, il y a au minimum 5 coachs dessus, quoi.
T'as réussi à faire un ratio, genre nombre de personnel trainer versus nombre d'adhérents dans le club.
Alors,
nous, à l'époque, nous, tu vois, lire ça, on nous avait dit que c'était 5% du nombre d'adhérents qui vont faire du one-to-one, par exemple.
Ouais, nous, on est à peu près entre 5 et 10%.
5-10%
ouais. Ouais, 5 à 10%.
Ok.
Ouais, ils ont vraiment pas mal, ils ont vraiment beaucoup de demandes, quand même, les coachs. Puis, ouais, avec la prospection, il y a plusieurs, il y a aussi Basic Fit qui nous en envoie, ils sont contactés via les sites internet. Donc après, vu que c'est des indépendances, tu vois, on n'a pas de chiffres réels, tu vois. Mm-hmm. C'est compliqué parce que voilà, les lois RGPD, etc. On peut pas tout maîtriser, mais ouais, ils ont quand même pas mal de demandes. Ouais,
ouais, ok.
Donc voilà, donc les objectifs, ça serait là, obtenir les 100 coachs là en milieu d'année, avant septembre. Et après, se rapprocher du million d'euros de chiffre d'affaires par an. Mm-hmm. Donc après, ça va le faire au fur et à mesure. Quoi. En tout cas, maintenant, là, je pense qu'on a vraiment optimisé, que ce soit au niveau de l'équipe. Ici, on s'est structuré en salariant. Donc, c'est quand même, quand tu salaries au début, voilà, c'est pas évident. On a trouvé une bonne équipe avec qui on est vraiment content de notre équipe. Donc là, on est prêt. On a les locaux. On a au siège social à Bordeaux. On a les clubs. On a mis les responsables sur chacune des régions. On a la formation, on a le truc. Donc maintenant, on optimise un petit peu partout. Mais voilà, là, ça va... Ça augmente, ça suit le cours, quoi.
Comment vous faites pour, comment toi tu fais pour continuer à progresser et à t'améliorer?
Alors, comme disent beaucoup, c'est les formations. Hein. Moi, ce qui m'a sauvé entre guillemets, voilà, mon BPGEPS, ils m'ont pas appris à vendre, ils m'ont pas appris à communiquer. Donc, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations. Mais voilà, c'était chez Nesmil, chez HBX, j'en ai fait partout, en ligne, etc. Maintenant, avec Internet, tu as accès à tout, quoi. Mmh. Tu regardes, tu as des tutoriels sur YouTube, tu peux apprendre à tout faire. Donc voilà, moi c'est vraiment la formation. Tu vois, j'ai acheté même des formations en ligne pour monter des tunnels de vente, pour monter un site internet, pour le sponsoring sur les réseaux sociaux. Donc maintenant j'ai la possibilité de prendre des prestataires, tu vois, sur le sponsoring. C'est plus moi qui m'en occupe. Ça évolue tellement vite que j'ai plus le temps. Mais du coup maintenant je prends des prestataires qui s'occupent de ça, etc. Mais du coup voilà, c'est les formations et après l'entourage. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Mais l'entourage. Des fois, au lieu de faire, il y a certaines personnes qui vont faire beaucoup de formations, mais qui du coup ne vont pas avoir le temps de le mettre en place, etc. Nous, on est dans le Sud-Ouest. Aller faire un resto avec certaines personnes inspirantes, faire une bonne côte de bœuf avec et discuter, etc. Business, etc. Tu vas en apprendre beaucoup. Mmh. Peut-être même beaucoup plus que dans une formation. Enfin, c'est vraiment l'entourage est vraiment très très important. Moi, il y a des fois, je vais faire un repas, un truc ou quoi, et je rencontre des personnes, et du coup, il va me dire peut-être un truc dans le repas. Je dis ouais, mais ça, alors que des fois, c'est pas du tout dans le même secteur d'activité, mais ça, voilà, ça, je pourrais peut-être le mettre en place pour chez moi, etc. Mm-hmm. Donc, ouais, c'est vraiment ça, les formations et l'entourage.
Ok.
Demain, toi, je sais plus la phrase commencée, mais c'est vrai, tu es un mélange des 5 personnes qui t'entourent, tu vois. Mm-hmm. Mais c'est un peu ça, si demain tu te promènes toute la semaine avec des personnes qui gagnent 1 million d'euros par mois, ben, tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas prendre les mêmes tics, les mêmes habitudes et tu vas augmenter ton truc. Hein. Alors que si tu te promènes avec 5 personnes qui ne travaillent pas et qui jouent à la PlayStation toute la journée, tu vas avoir tendance à
jouer à la PlayStation.
Là, tu vois, passer du côté obscur.
Et c'est quoi ton échec préféré, Thomas?
Mon échec préféré. On n'a pas eu forcément un gros échec en particulier. Par contre, on a eu plein de petits. Nous, c'est vraiment ça, tu vois. Après les erreurs de base, hein, comme en coaching, mais tu vois, j'ai avec des coachs qui du jour au lendemain sont partis, tu vois, parce qu'on n'avait pas fait de contrat ou un truc. Maintenant, on a pris un service juridique avec un avocat d'affaires, etc. Du coup, on s'est structuré. Sur la com, on a fait des erreurs. Du coup, ben, on a pris un prestataire là-dessus aussi. En termes de comptabilité, je le disais, toi, c'est peut-être celle-là la limite, tu vois, en y réfléchissant. On avait fait confiance à cette société là qui nous faisait notre comptabilité, mais si toi t'es pas derrière pour poser les bonnes questions, etc., ça va pas forcément. Il faut que tu sois derrière si tu veux pour leur dire ouais, mais attention, moi ça marche comme ça, ça marche comme ça. Ah oui, et là du coup, quand tu leur poses les bonnes questions, ils vont te trouver les solutions. Mais voilà, nous, notre plus grosse erreur, ça serait ça. Après, voilà, c'était une histoire de je sais pas, ça a duré 9 mois. Mais voilà, tu vois, on s'est rendu compte en se formant sur la partie comptabilité qu'on était exonéré de TVA, etc. Et du coup, ben, le montage n'était pas bon, si tu veux. Le montage n'était pas bon. Et après, on a eu énormément de petits échecs, mais à chaque fois, on a su rebondir, en fait. Tu vois, et au contraire.
En fait, pour rebondir, c'est le fait d'être deux, le fait de discuter, de que y en a un qui est moins bien, bah l'autre, du coup, c'est un peu comme dans l'entraînement, quand t'es deux à t'entraîner, quand il y en a un qui est moins bien, bah l'autre va pouvoir justement le motiver. Enfin, c'est ça se passe comment?
Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment en discutant. Bah tu vois, nous, c'est notre. Voilà, je te dis, hein, les réunions où on décide la plupart des trucs, c'est en discutant. Le matin, on est tous les deux, on prend notre petit déjeuner au bureau tous les matins. Place dans la journée des fois, tu vois. Mais c'est vraiment en discutant et le fait, voilà, on a tous les deux le même objectif. Donc ça, c'est aussi, voilà, c'est aussi important. On a tous les deux le même objectif, donc.
Ouais. Voilà. Ça permet d'aller plus vite, forcément.
Ouais.
Est-ce que tu as un livre à nous recommander, un livre ou une ressource, un podcast que tu donnes peut-être ou que tu fais acheter au coach
qui... J'en ai lu énormément. Alors, ce que je fais moi, vraiment, c'est je fais beaucoup de podcasts. Parce que lire, je n'ai pas forcément le temps. Donc, je fais beaucoup de podcasts vu que je suis beaucoup en voiture, etc. Dans la voiture, j'écoute quasiment jamais la radio. C'est toujours des podcasts. Donc, j'écoute tes podcasts. J'écoute pas mal de choses et je le faisais déjà. J'avais déjà ces habitudes-là quand je coachais. J'écoutais beaucoup de trucs. À l'époque, c'était Rudy Koya, etc. J'écoutais les 100 épisodes. Enfin, tu vois, j'ai toujours fait ça. Et après, en termes de livres, alors, moi, je vais pas forcément donner des noms de livres comme on a l'habitude de faire. En revanche, moi, j'ai un abonnement. Je me rappelle même plus comment ça s'appelle le nom.
Cooper ou un truc comme ça.
Ouais, alors c'est un abonnement où tu as des résumés en fait de livres. Voilà. Et du coup, j'ai les résumés, je dis n'importe quoi, un livre de 150 pages, tu as le résumé en 15 pages, plus l'audio. Et moi, du coup, je vais me faire l'audio à chaque fois. Donc quand je dis que je lis, c'est plus ce que j'écoute. Mais du coup, j'en ai. Voilà. J'essaye de faire au moins 2 livres par mois, mais du coup, en format audio. En fait, c'est le résumé, etc. Mais voilà, au lieu d'écouter la radio, d'écouter. J'essaie de faire comme ça. Et puis, j'ai toujours un truc à en ressortir. Voilà.
Est-ce que tu as un dernier message à partager à ceux qui écoutent le podcast?
Venez chez FPT. Hein. vraiment, croyez en vous. Ce que je disais tout à l'heure, formez-vous. Ça, c'est vraiment important. Formez-vous, c'est demain, vous vous formez. Voilà, que vous êtes impliqué, que vous êtes entouré des bonnes personnes. N'écoutez pas les personnes. Des fois, où il y a trop de pensées limitantes, etc. Tu vois, toute ma famille, mes parents, ma sœur, etc. sont fonctionnaires. Si je les avais, ils n'étaient pas dans ce mindset d'entrepreneur. Et du coup, peut-être que si à l'époque je les avais écoutés, je ne me serais jamais lancé, tu vois. Pourtant, c'était ma famille, ils m'aimaient, etc. Tu vois, ils voulaient bien faire pour moi. Mais si j'avais écouté, je ne me serais jamais lancé. Et maintenant, je fais le salaire de mon père, ma sœur, ma mère réunie. Enfin, tu vois. Donc, voilà. Tu vois, donc croyez en vous, c'est vraiment, si vous êtes formé, que vous êtes entouré des bonnes personnes, que vous vous structurez au fur et à mesure, faut laisser le temps aussi pour faire les choses. Il n'y a pas de raison. Si vous êtes impliqué, il n'y a pas de raison. Et encore une fois, pour reparler un petit peu du business de chez Basic Fit, sincèrement, celui qui se donne les moyens, c'est sûr que ça fonctionne. À 99%, ça fonctionne.
Ok. Comment on fait pour rejoindre du coup votre réseau?
Alors du coup, je pourrais te donner le lien. Nous, en fait, on a un site internet. On a un site internet pour le recrutement. Il y a une première vidéo qui présente un petit peu le concept, comment ça se passe, etc. Pour avoir, vu qu'on a énormément de demandes, pour éviter de le faire au téléphone pendant 20 minutes à chaque fois. La personne, du coup, regarde cette vidéo, remplit un formulaire où elle va remplir quelques questions, etc., savoir quel diplôme elle a, etc., pour trier un petit peu. Et à la fin, tu prends un rendez-vous directement avec nous. Et c'est Chloé, notre chargée de recrutement, qui contacte les coachs, qui fait 2 appels téléphoniques, etc. Plus après, ça peut même être un rendez-vous en présentiel avec nos petits leaders. Voilà. Okay. Donc, c'est directement en cliquant sur le lien que je pourrais t'envoyer.
Ok, bon, je mettrai tout ça dans la description du podcast. Ok, merci en tout cas, c'était super cool, super inspirant. Je te souhaite plein de bonnes choses et puis j'espère qu'on aura du coup l'occasion de se rencontrer. Merci, okay. Merci Thomas, merci tout le monde. Pensez à mettre un petit 5 étoiles, un commentaire pour valoriser le podcast et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde.
À bientôt, merci.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.